Une semaine débutée hier par la biographie, c'était avec Philippe Forest. Une semaine qui se poursuivra demain, finalement non pas avec Jacques Ralite, mais avec Jacques-Henrique et Pierre Lepape, l'un qui l'a fréquenté aux lettres françaises et l'autre qui a fréquenté ses textes en tant que critique littéraire au Monde des Livres. Et notre série se terminera jeudi en direct du Salon Livre Paris par une émission sur Aragon romancier. Ce sera avec Daniel Bougnou. Mais aujourd'hui, c'est du poète et non de l'écrivain dont il va être question, l'auteur notamment du Paysan de Paris.
Comme on laisse à l'enfant pour qu'il reste tranquille des objets sans valeur traînant sur le parquet, peut-être devinant quel alcool me manquait, le hasard m'a jeté les photos de ma ville, les arbres de Paris, ses boulevards, ses quais. Il a le front changé d'un acteur qu'on défarde. Il a cet œil hagard des gens levés trop tôt. C'est pourtant mon Paris sur ces vieilles photos.
Une émission consacrée donc à celui qui publiait à 20 ans des poèmes à la Cocteau, au poète de Paris aussi, ce lieu qu'il disait sans visage que le vent, à l'adorateur des passages de l'opéra et du panorama, celui qui a écrit « Arrachez-moi le cœur, vous y verrez Paris », à l'amoureux d'Elsa aussi, bien entendu, au poète communiste enfin, celui de Front Rouge qui appelait à la Révolution et dont voici une strophe célèbre. Quand les hommes descendaient des faubourgs et que, place de la Concorde, le flot noir se formait comme un point qui se ferme, les boutiques portaient leurs volets à leurs yeux pour ne pas voir passer l'éclair. La poésie, nous en parlons aujourd'hui avec Olivier Barbaran qui a édité les poèmes d'Aragon dans la Pléiade et en la compagnie de qui nous sommes jusqu'à 15h55.
À l'époque du mouvement surréaliste, on me reprochait beaucoup que dans ma prose, je faisais des alexandrins. Plus exactement, certains me le reprochaient. Par exemple, Éluard, qui aurait bien voulu faire des alexandrins et à qui on interdisait d'en faire, disait « Pourquoi permettons à Aragon d'en faire en prose ?» Cette petite histoire éclaire assez bien ce que je veux dire. Il m'arrive de passer de la prose au vers d'une façon totalement insensible. C'est visible dans mes derniers poèmes en particulier, mais ça a toujours été au fond ainsi.
Bonjour Olivier Barbaran.
Bonjour.
Je vous voyais sourire en écoutant cette archive introductive de Louis Aragon.
Oui, je souris toujours à écouter cette voix un peu flûtée. Je le préfère dans les entretiens où je retrouve sa virtuosité que quand il dit ses poèmes, où il les dit avec une voix d'époque. Enfin, on sait souvent que les poètes ne sont pas de très bons lecteurs. Ils sont en tout cas des lecteurs d'époque et quand il lit ses poèmes, je n'y entends pas la modernité que j'y entends. Mais j'aime beaucoup l'entendre parler avec cette virtuosité, cette aisance qui est la sienne. Et j'aime aussi cette réflexion assez amusée sur Éluard qui n'avait pas le droit de faire des alexandrins. Derrière cette petite ironie, il y a surtout une interrogation sur l'indistinction fondamentale d'un mouvement d'écriture générale en prose ou en vers qui porte toujours chez lui le nom de poésie, je crois, ou de parole en tout cas.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la poésie chez Aragon ?
Pourquoi s'intéresser à la poésie en général ? Enfin, je crois que
non, mais Aragon en particulier parce que vous avez une histoire avec lui.
Oui, j'ai une double histoire. J'ai une histoire d'enfance, le roman inachevé, enfin le volant, le trouvant dans la bibliothèque parentale et le lisant alors que je n'y comprenais même. Mais j'y entendais déjà une chanson qui me plaisait sans y rien comprendre. Ça a été le cas aussi, et plus encore avec ce livre un peu plus compliqué, c'est vrai, qui était Les Poètes. Je me souviens très bien d'avoir adoré, d'autant que ça a été ensuite chanté par Ferrat. Enfin ensuite, c'était dans le même temps, mais moi je l'ai découvert un peu après. Je me souviens très précisément de ce très très beau vers de la Duodécimos dans Les Poètes, quand sur le Panthéon, comme un écarissage, le crépuscule met ses lambeaux écorchés. Je ne comprenais pas un traître mot de cela, mais je trouvais ça sublime. Bon. Et plus tard, Aragon, quand on est un peu jeune et qu'on a des ambitions intellectuelles, m'est apparu comme peut-être, prétendais-je, avec l'arrogance de 20 ans, trop facile, pas assez philosophique. Il n'y avait pas ce qu'il appelait lui-même, le relent d'Inde, la dimension métaphysique, philosophique, et de fait, elle y est aussi. Simplement, elle apparaît dans des formes autres, et il m'a fallu un peu de temps pour avoir la liberté, je dis bien la liberté, de revenir à Aragon.
Et qui finalement vous ressemble plus que peut-être d'autres poèmes, d'autres poètes.
Sans doute me ressemble-t-il en partie. Enfin, c'est toujours très très prétentieux de dire qu'il ressemble. En tout cas, il me convient et il me porte.
La critique universitaire a fait un petit peu le même mouvement que vous. Elle éprouve un certain dédain pour la poésie d'Aragon.
Oui, elle le faisait d'ailleurs au moment où j'ai déposé ma propre thèse. Enfin, des gens qui me voulaient le plus grand bien expliquaient que peut-être il était préférable pour ma carrière de choisir un autre auteur, sans doute parce que le caractère brûlant, politique, la complexité de cette œuvre, la simplification, les caricatures qui en sont faites, n'en font pas forcément une œuvre stable, mais c'est cette instabilité évidemment qui m'a touché et qui m'importe.
Et pour vous, il est apparu que Aragon était en réalité d'abord poète, y compris quand il est écrivain.
Je crois qu'il le dit dans l'extrait que nous venons d'entendre. Il ne s'agit pas de faire une rivalité sotte entre les différents genres, mais force est de reconnaître que, d'une certaine façon, il y a deux Aragons qui se croisent assez difficilement dans la réception qui en est faite aujourd'hui. On a le sentiment que le prosateur, par sa virtuosité éblouissante, par la mise en avant remarquable et les travaux nombreux qui ont été faits sur les romans de la fin, est maintenant reconnu dans sa virtuosité, dans son génie. Le poète, à cause du recours un temps à des formes traditionnelles, apparaît à la fois comme vieilli à ceux qui défendraient le prosateur au nom de la défense de l'infini ou des pros surréalistes ou des romans de la fin. Et le poète est moins facilement maniable, alors même que le poète est celui qui bénéficie d'une forte réception populaire grâce à la chanson. Et donc on a l'impression que la poésie serait un peu le sous-genre réservé à une sorte de lectorat peut-être moins érudit et que le roman serait le plus brillant. Quand on regarde son œuvre, je crois que de fait, dans le roman flotte pour moi essentiellement une poésie. Et d'autre part, je crois que dans la chronologie, quand on y revient, la poésie est le lieu d'expérimentation où des formes modernes que le roman réexploitera se jouent et se nouent. Enfin, les relations sont à la fois plus troubles, plus confuses entre les différents genres. Et en même temps, je crois que le rôle de la poésie n'a pas été suffisamment vu. Et l'une de mes ambitions était de montrer que cette poésie était plus diverse que l'image peut-être de quelques chefs-d'œuvre qui sont très beaux, mais qui sont les chefs-d'œuvre permettant la mise en chanson le plus souvent et les chefs-d'œuvre du vers conté. Ne restitue pas sa plénitude et sa diversité.
S'il fallait le comparer à un grand poète, vous pensez immédiatement à Victor Hugo et vous dites même qu'on ne pourrait le comparer à la limite qu'à quelqu'un d'aussi grand que Victor Hugo.
Je crois, oui. Enfin, on pourrait le comparer à quelqu'un d'autre dont il a parlé et qui renverrait un peu, enfin, qui permettrait une autre vision de sa littérature. Lui-même dit à un moment, en 54, au moment même où il en a peut-être un peu assez d'un alexandrin qui lui semble devenir un peu une moulinette, hein, ou qu'il a épuisé, j'ai souvent envié le vers de Paul Claudel. Ce qui apparaissait comme une grande surprise, mais il y a la puissance lyrique de Claudel. En revanche, il y a, pour le fait d'avoir couvert un siècle et d'avoir noué à ce point l'intime et l'historique et le politique, et d'avoir une œuvre si diverse qui traverse les genres, je crois qu'effectivement la comparaison avec Hugo s'impose.
Alors on peut lire la poésie d'Aragon dans la Pléiade depuis 2007, c'est vous qui vous en êtes occupé, mais il y a fort à parier que les auditeurs qui connaissent sa poésie la connaissent d'abord grâce aux chansons.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture. Ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. Passe la nuit claire à boire.
L'étrangère chantée par Léo Ferré. Vous les avez, ces disques, chez vous? Donc Ferré, Ferra et puis encore d'autres.
Oui, évidemment, je les ai beaucoup, beaucoup écoutés, énormément adolescent, un peu moins maintenant, je dois le reconnaître. Je les ai beaucoup écoutés avec des variantes qui intéresse l'œuvre d'Aragon, de temps en temps préférant Ferrat, de temps en temps préférant Ferré, et indéniablement sur cette mise en musique, je préfère l'orchestration et surtout la voix de Ferré qui me paraît suffisamment grinçante pour restituer la complexité de ce qui pourrait apparaître comme une idylle un peu joyeuse et qui, grâce à Ferré, est restituée dans la vérité du texte.
J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison.
Qu'est-ce qui fait une bonne interprétation par un chanteur de la poésie d'Aragon ?
Lui-même disait que le poème ne lui appartenait plus à partir du moment où il était mis en chanson. Ce qui me paraît faire une complexité à mes yeux, c'est que les tessitures ou les tonalités chez Aragon sont plus complexes qu'on ne l'imagine, compte tenu aussi justement de cette complexité des genres. Ici, il s'agit d'un extrait d'un livre de poèmes qui s'appelle, et qui ne s'appelle pas pour rien, « Le roman inachevé ». Et dans la situation dans laquelle se trouve le lecteur lorsqu'il aboutit à ce poème, il s'agit d'une grande crise sentimentale, d'une Italie qu'on reparcourt après une rupture très très violente et même une tentative de suicide. Et donc cette sorte de fête hein, ou de pseudo-fête est en fait une sorte de gaspillage de soi tragique. Et il y a tout à la fois ce dédain vis-à-vis de la tragédie, et même cette tragédie, et en même temps toute l'euphorie que peut avoir aussi une rencontre érotique. C'est ce mélange des trois qui est très difficile à rendre, et qui fait que souvent l'interprétation choisit, évidemment, une tonalité ou une autre. Celle de Ferré a le mérite d'être suffisamment grinçante pour restituer quelque chose de l'expérience de la lecture au fil du roman inachevé.
Est-ce qu'il avait rencontré, pardonnez-moi, il avait rencontré Ferré, puis Ferrat.
Oui, il les a.
Ils avaient discuté un petit peu.
Il les a rencontrés, Ferré d'abord, je crois, Ferrat ensuite. Ferrat, ça a été même un compagnonnage, une sorte d'amitié. Et en même temps, le discours que tient Aragon sur la mise en chanson est toujours un discours de « cette œuvre ne m'appartient plus, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez ».
Vous savez qu'il y a un poème de moi qui a fait fort scandale en son temps, et pour lequel, parce qu'on avait mis ça dans une anthologie, j'ai eu beaucoup à répondre, parce qu'on voyait ça dans les écoles, et dans les écoles, les gens se demandaient ce que ça signifiait. C'est un poème qui est fait par la répétition du mot persienne. C'est un poème qui s'appelle Persienne, et dans lequel il n'y a pas d'autre mot que le mot persienne répété. Persienne, 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 avec des différences d'accentuation. En réalité, ce n'est pas du tout un jeu relevant essentiellement, comme cela a paru en son temps, de l'esthétique dada. C'était pour moi le développement d'une manie très répandue chez les enfants et que j'ai eue et que j'ai retrouvée avec stupéfaction en lisant un livre qui m'a beaucoup impressionné, qui est le roman de Dickens, Dombey et fils. Et le petit Dombey, sur une plage du sud de l'Angleterre, quand il reste seul, répète ainsi un mot jusqu'à ce que ce mot perde toute espèce de sens. C'est cela que j'avais essayé de reproduire par la répétition du mot persienne, qui en plus, comme je ne m'en suis aperçu que très longtemps après, était probablement lié dans mon esprit à un mot qui lui ressemble et qui est le mot personne.
Alors Olivier Barbaran, on a pris l'habitude de découper en trois périodes la poésie d'Aragon, trois périodes, 60 ans de poésie, une première période qui serait une période surréaliste, puis une seconde qui inclurait le militantisme et les œuvres de résistance, et puis enfin le lyrisme intime. C'est une période qui est évidemment un peu grossière, mais qui aide peut-être, une périodisation qui est un peu grossière, mais qui aide peut-être à comprendre les mouvements souterrains qui sont à l'œuvre. Et là, on vient d'entendre Aragon parler de son poème « Les Persiennes ». Alors, quelle est la période où il faudrait classer les Persiennes ?
La période où il faudrait classer les Persiennes est évidemment celle de la jeunesse d'Aragon et donc celle d'un surréalisme, mais qui est un surréalisme à la Aragon. Plus le temps passe et plus on se rend compte qu'il y a un surréalisme thématisé, emblématisé par Breton, mais il y a des surréalismes divers et variés. Celui d'Aragon est toujours un peu, et on l'entend d'ailleurs dans ce discours sur le mot et le langage, toujours plus proche tout de même de la rupture de Dada. Il n'y a pas la dimension réconciliatrice par le symbole, enfin, il n'y a pas le dépassement dépassement, pour parler un langage hegelien qui aurait sans doute plus au surréaliste, qu'il y a peut-être chez Breton, ou la tentative de dépassement. Même l'image n'y suffit pas.
Et pourquoi ?
Parce qu'il est en proie à quelque chose qui dépasse là les trois périodes et qui est le rapport entre continuité et brisure. Enfin, j'ai le sentiment que vraiment toute son œuvre fonctionne sur cette fluidité, cette rhapsodie et en même temps ce casser. Et il y a le désir très très violent de la cassure chez lui. Et on a l'impression qu'il tisse des mélodies admirables pour pouvoir les casser de l'intérieur, ou bien qu'il se défait de ces mélodies et qu'il veut les casser. Alors de temps en temps, c'est plus la rupture et le bris qui est en avant, et c'est sans doute l'œuvre de jeunesse, c'est parfois vrai aussi dans l'œuvre militante, pas toujours, de temps en temps au contraire, c'est plus la réconciliation, mais c'est sur ces deux dimensions qu'à mon avis il n'y a pas d'enveloppement ou de réconciliation par globalité, il y a plutôt des tensions qui s'affrontent sans jamais se réconcilier chez Aragon, ce qui le rend plus proche peut-être de Dada. On peut ajouter sur ce poème Persienne qu'Aragon désigne du coup dans une sorte de lapsus quelque chose qui serait de l'ordre de l'énigme, du masque et de la persona déjà. Puisqu'il parle de personne, on peut aussi dire tout de même que persienne, le mot équivalent de persienne, c'est jalousie, ce qui enrichirait peut-être la palette de lecture de ce texte.
Et c'est amusant parce que vous disiez qu'à un moment donné, vous aviez eu presque honte, étant jeune, de lire Aragon. Et lui, à 20 ans, il aurait presque honte de lire Rimbaud et d'aimer Rimbaud.
Pour Rimbaud, je crois qu'à 20 ans, il n'en avait pas honte. C'est un peu plus tard qu'il a remis en cause ce qu'il a appelé le mythe rimbaldien. Il a plutôt eu honte, je crois, de lire des poètes symbolistes ou post-symbolistes pour lesquels il avait gardé une vraie affection. On a le sentiment chez Aragon que l'érudition est constamment là, qu'il lit tout et que suivant les époques, il met en avant un certain nombre de lectures. Par exemple, la lecture des poètes du Moyen-Âge, dont il parle tant dans la deuxième période, est une lecture qu'il ne dit pas au moment du surréalisme, qu'il a peut-être fait dans les années 30, mais qui sans doute était déjà un pressentiment encore plus évident pour Barrès. Bien entendu, il a pu cacher un certain nombre de choses de son érudition pour mettre en avant des guides d'une certaine époque.
Mais donc cette brisure, cette cassure, qui est le propre de la jeunesse, au fur et à mesure, il va finalement revendiquer ce qu'il avait au départ rejeté, et revendiquant une tradition, un classicisme, une histoire de la poésie française.
Oui, bien sûr, Aragon le dit lui-même, je crois qu'on ne comprend rien à mon œuvre si on nous nommait de dater mes écrits. Aragon, c'est un parcours, c'est ce qui le rend aussi proche de Hugo, et il est très aisé de faire jouer l'un contre l'autre, comme on l'a fait pour Hugo. Il s'agit d'une trajectoire, et c'est dans cette trajectoire, moi, qu'il m'a beaucoup importé, parce qu'il me semble qu'on peut faire son apprentissage en même temps qu'on voit les endroits où Aragon se blesse, où il va chercher, où on voit un génie essayer, puis se casser, puis revenir à d'autres choses. Et faire jouer une période contre l'autre a été le grand jeu de la critique aragonienne, mais à mon avis, ça ne permet pas de comprendre ni ce qu'il nous apporte, ni la richesse d'une expérience qui est constamment renouvelée, et dirais-je volontiers constamment jeune. La brisure, de fait, elle joue aussi énormément dans la fin de carrière d'Aragon, elle rejoue, elle a joué même dans la période dite deuxième, et donc les choses sont là encore plus instables. J'ai l'impression d'un éternel jeune homme, même lorsqu'il avait 80 ans.
Alors j'aimerais que vous nous parliez d'un autre grand poème, on ne sait pas si on peut d'ailleurs appeler ce texte un poème, de cette première période, qui est évidemment le Paysan de Paris. Je crois que c'est un texte que vous aimez en particulier.
C'est un texte pour lequel, très honnêtement, j'ai plus de difficultés que pour d'autres. Je suis plus un adepte du vers. Je suis tout prêt à dire que la contribution majeure d'Aragon au surréalisme, c'est indéniablement le Paysan de Paris. D'ailleurs, l'histoire littéraire a tranché. C'est son chef-d'œuvre, c'est certain. Il n'est pas indifférent que ce soit un chef-d'œuvre en prose. Il me semble que dans la première période, Aragon, qui fait des poèmes intéressants, qui fait des poèmes séduisants, qui fait des poèmes cassés, est en même temps quelqu'un qui s'accomplit pleinement dans la prose, avec une virtuosité déjà là, alors que le vers est davantage en recherche et ne naîtra peut-être complètement sous sa forme aragonienne que plus tard.
Alors on va continuer de parler du Paysan de Paris, mais écoutons-en d'abord un extrait.
Le bizarre de l'homme et ce qu'il y a en lui de vagabond et d'égaré, sans doute pourrait-il tenir dans ces deux syllabes, jardin. Jamais qu'il se pare de diamant ou souffle dans le cuivre, une proposition plus étrange, une plus déroutante idée ne lui était venue que lorsqu'il inventa les jardins. Une image des loisirs se couche dans les gazons au pied des arbres. On dirait que l'homme s'y retrouve avec son mirage de jets d'eau et de petits graviers dans le paradis légendaire qui ne l'a point oublié entièrement. Jardin, par votre courbe, par votre abandon, par la chute de votre gorge, par la mollesse de vos boucles, vous êtes les femmes de l'esprit, souvent stupides et mauvaises, mais toute ivresse, toute illusion. Dans vos limites de fusain, entre vos cordeaux de buis, l'homme se défait et retourne à un langage de caresse, à une puérilité d'arrosoir. Il est lui-même l'arrosoir au soleil, avec sa chevelure fraîche.
Olivier Barbaron.
Ce qui me séduit toujours, c'est effectivement ce terme sur lequel il faudrait un jour que nous revenions tous ensemble, ce mot si fameux dans le romantisme, qui n'a jamais manqué d'alimenter Aragon, même souterrainement pendant sa première période, qui est ce terme de virtuosité. Virtuosité qui signifiait génie à l'époque romantique, et qui signifie aujourd'hui plutôt une habileté rhétorique qui n'en finirait pas de déferler. Il y a de la virtuosité, et de la virtuosité dans les deux sens, je crois, dans la prose surréaliste d'Aragon.
Il écrivait facilement, et c'est ça aussi peut-être la virtuosité.
C'est absolument sidérant, il n'y a pas de mythe à dire que... Il y a une phrase de Claudel que j'aime beaucoup concernant Aragon, hein, leurs rapports ont été compliqués, mais parfois d'admiration réciproque, qui dit qu'il écrivait la langue française naturellement. Ça n'a l'air de rien, mais effectivement, la langue française coule et s'écoule avec une telle aisance, notamment dans la prose, que des boucles d'images, des choses fabuleuses, surgissent d'une expérience qui est tout de même assez ténue, qui est celle de la déambulation urbaine de quelqu'un qui peut porter comme cela sur des pages, des déferlantes d'images, des embardées lyriques qui sont absolument saisissantes et sublimes. Et en même temps, et je crois que l'œuvre d'Aragon le montre, et en même temps, il y a quelque chose chez lui d'une insatisfaction devant cette aisance. On le voit encore plus lorsqu'il va déployer cela jusqu'à son terme, comme souvent il le fait, hein, puisqu'il n'hésite pas à aller au bout de ses tentatives jusqu'à se cogner, jusqu'à montrer qu'il doit les dépasser. Le paysan de Paris contient déjà quelque chose de la défense de l'infini, cette fameuse prose immense et inachevable, forcément, pour laquelle nous savons maintenant qu'il a consacré, à laquelle nous savons qu'il a consacré des années, et qui en même temps risque, malgré son effloraison d'images saisissantes, de tourner à vide, comme s'il devait chercher une matière qui lui résiste davantage, tant la langue ne lui résiste pas.
Et puis le paysan de Paris, c'est une promenade dans quasiment tout Paris. Olivier Barbaran, on peut se retrouver au but de Chaumont, mais aussi au passage de l'Opéra, place d'Italie. Il y avait un rapport poétique à Paris que peu de personnes, peu de poètes ont entretenu.
Toute l'œuvre d'Aragon... Est bouleversante par sa capacité à s'approprier Paris. Cela dépasse largement le paysan de Paris. C'était déjà présent dans une œuvre pour laquelle j'ai une affection toute particulière. Enfin, il y a deux proses donc, que je souhaiterais nommer à côté du paysan de Paris, tant elles sont à la fois, je le reconnais, moins complètement accomplies, mais d'une fraîcheur dont j'aimerais qu'elles soient prises en considération. Ce sont les aventures de Télémaque, la réécriture de Fénelon en langage dada, et c'est à Nicée ou le panorama où il y a déjà des panoramas, il y a déjà ce paysage parisien qui est d'une certaine façon le cœur même et le labyrinthe même dans lequel s'inscrit la rêverie d'Aragon dans toutes les périodes de sa création.
Alors avançons justement sur la deuxième période, elle est incarnée par le Crève-cœur qui est écrit entre octobre 39 et octobre 40, traversé par la violence de la guerre dont Aragon a connu les pires lieu de combat. Comment vous définiriez ce deuxième moment de la poésie aragonienne ?
C'est un moment qui s'est cherché longtemps. Je ne dirais pas, comme vous l'avez proposé, le moment du militantisme et de l'histoire, comme si le troisième moment ne l'était pas. Pour moi, il y a un accomplissement d'Aragon sur une modalité qui est un peu épique, compte tenu de la nécessité de résistance, puis de la volonté d'incarner une politique jusque dans la guerre froide. Et il y aura un troisième moment tout aussi historique, tout aussi militant, mais sur un mode plus élégiaque, parce que quelque chose, une défaite sera passée par là.
Et qui sera un moment plus subjectif, alors, ce troisième moment sera plus subjectif. C'est un petit peu comme, alors je ne sais pas si le parallèle est bon, mais c'est un petit peu l'inverse de la trajectoire de quelqu'un comme Mauriac, par exemple, qui va partir du jeu, partir de la subjectivité dans dans ses jeunes années pour aller vers la politique. Et là, on a l'impression que Aragon, même s'il y aura toujours de la politique, évidemment, jusqu'à la fin, va s'autoriser de plus en plus de subjectivité au fur et à mesure qu'il avance dans la poésie.
En même temps, Le Paysan de Paris, où l'œuvre de jeunesse était profondément subjective.
Presque formelle, du coup.
Et elle a fait l'apprentissage de l'histoire, notamment à partir de la lutte anticoloniale et de la guerre du Rif, selon Aragon, en 1925. Mais cette croisée du subjectif et de l'historique, n'oublions pas tout de même que les poèmes de militantisme résistant s'appellent Le Crève-Cœur, avec une intériorité, ou Les Yeux d'Elsa, avec la figure de la femme aimée. Donc il y a toujours eu cette volonté de nouer du subjectif et de l'intime à de l'historique. En revanche, il y a sans doute un pas épique et puis un repli lyrique, compte tenu évidemment de l'évolution de l'histoire et du sentiment qu'on ne pouvait peut-être pas chanter des lendemains qui chantent après une sorte de défaite ou de défaillance historique.
Vous voudriez bien nous lire un extrait du Crève-Cœur et en particulier de ce poème La Valse des 20 ans?
Oui, c'est un très très beau poème parce que il montre bien que il y a des gestes aragoniens qu'à force de les connaître, on repère plus tôt peut-être qu'on ne les imagine. Et par exemple, cette compassion pour la jeunesse, ou cet appel aux jeunes gens qu'on retrouvera beaucoup.
Cet intérêt aussi peut-être pour la jeunesse.
Et cet intérêt de bien des façons, qu'il s'agisse d'un intérêt intellectuel, poétique, et aussi d'un intérêt affectif, voire sexuel, s'origine peut-être bien avant les poèmes comme jeunes gens dans les années 60. Et ici, il s'agit d'une comparaison et d'un parallèle entre tout de même deux guerres à 20 ans d'écart. Et La Valse des 20 ans, ce sont ces deux guerres, Aragon comparant sa propre conscription de la classe 17 à la conscription de 39. Bon pour le vent, bon pour la nuit, bon pour le froid, bon pour la marche et pour la boue et pour les balles, bon pour la légende et pour le chemin de croix, bon pour l'absence et les longs soirs drôles de balles. Où, comme j'ai dansé, petit, tu danseras sur une partition d'orchestre inhumaine, bon pour la peur, pour la mitraille et pour les rats, bon pour le bon pain, bon comme la romaine. Mais voici se lever le soleil des conscrits, la valse des 20 ans tourne à travers Paris.
On le sent aussi dans ce poème lui-même quand il dit « J'ai 40 ans passés, leurs 20 ans me sont proches ». Est-ce qu'il parle de lui aussi ?
Je crois que un génie tel que celui d'Aragon ne va pas sans une sorte de à la fois de capacité à tout réfléchir comme un miroir et en même temps à tout projeter de son propre miroir sur les choses. La générosité chez lui ne va pas sans un ancrage affectif et subjectif très très fort, et il parle toujours à la fois des autres avec une compassion très forte et très grande, et toujours en même temps de lui. C'est toujours de sa déchirure qu'il est question aussi lorsqu'il est dans la compassion, mais n'en va-t-il pas de même pour nous tous ?
Et c'est un recueil de poèmes qui va avoir une importance pendant la guerre, qui va, comment pourrait-on dire, galvaniser, en tout cas, qui va être chaleureux au cœur d'un certain nombre, être chaud au cœur d'un certain nombre de personnes.
Oui, il a su, non pas en sortant d'une pièce, parce qu'on a l'impression d'une transformation et d'une métamorphose complète d'Aragon en 39. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir combien même un génie a essayé, a cherché, a produit des poèmes militants au début des années 30 assez mauvais, qu'il reconnaît lui-même assez mauvais, pour parvenir à se réapproprier à un moment historique donné précis les moyens d'une poésie dite traditionnelle, renouvelée par lui, et dont on avait besoin à ce moment-là, puisque ce vers, c'était quand même aussi faire entendre la sonorité, l'image d'une culture française au moment même où elle était piétinée.
Mais quelle que soit la période, on peut dire qu'il y a une véritable passion du réel chez Aragon, et qu'on retrouve là, du coup, dans l'ensemble de l'œuvre poétique.
Tout à fait. Il a même dit dans des entretiens que dans surréalisme, il y avait réalisme. Au-delà de la boutade, il y a quelque chose de tout à fait juste. C'est quelque chose de concret qu'il cherche aussi dans le paysage parisien, dans les panoramas. Certes, le paysage est un support à l'époque à des sortes d'embardés de la rêverie ou de l'image. Et en même temps, c'est bien ce paysage, c'est bien ce petit panonceau qu'il y a dans un panorama qu'il va coller sur la page comme s'il avait besoin de cette trace de réalité. Et le réel est peut-être aussi ce qui, justement, permet à la phrase qui pourrait se déployer comme ça à l'infini pour rien d'avoir une butée ou d'avoir quelque chose qu'il s'agit de prendre en charge. Et cette prise en charge est une manière de lester peut-être une aisance de trille et de musique qui, sans cela, risquerait de tourner à vide.